auparavant, j'entendais plutôt des discours un peu différents. On est obligé d'essayer de faire passer les choses en douce. Là, c'était encore une fois unanime et ça a été la grande surprise, on va dire, quand on a repris le témoignage. C'est, on n'a pas le même discours, certes, on n'a pas la même vision, c'est évident. En revanche, on arrive à construire. Et bien souvent, le frein, on verra plus tard, ne vient pas forcément des partenaires sociaux, mais de la direction générale qui a plus de mal à accepter un autre discours et à se remettre en question. En revanche, les partenaires sociaux, on est dans un jeu, mais ils jouent le jeu de manière professionnelle. Et là, tout le monde est unanime pour dire, aujourd'hui, les partenaires sociaux ont d'abord des infrastructures derrière et une manière de travailler les textes, d'être en amont sur le sujet, qui fait qu'on a un vrai discours. Donc ça, c'était la vraie surprise. Alors, sans...
Non, mais c'est vrai que les partenaires sociaux, ils nous obligent à être experts, excellents. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'arriver comme on le faisait il y a une quinzaine d'années sans avoir préparé sa copie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont excellents. Il faut dire aussi que, moi, je ne sais pas ailleurs, mais moi, ils sont en délégation permanente. J'en ai trois en délégation permanente. Donc, j'ai le malheur de sortir une petite note de trois lignes. Ils vont éplucher chaque mot, et bon, ils passent leur temps à ça. Mais en même temps, ça nous oblige, nous, à faire l'effort d'être capable de répondre aux arguments, parce que c'est vrai qu'ils ont des arguments extrêmement forts. Et quelque part, c'est juste aussi de dire de ce fait, ils nous obligent, nous, à être un peu plus créatifs, experts et créatifs. Et souvent, les directions générales ont beaucoup de mal à se mettre dans une posture un peu moins autoritaire, à s'ouvrir un peu dans le débat, juste alors que les partenaires sociaux, malgré tout, ont moins tendance à camper leur position qu'ils le faisaient il y a 10 ans, quoi. On sent qu'on essaie de converger, c'est toujours dur.
Et alors, on a même une personne, par exemple, chez The Phone House, même si leur patron est celui qui, je crois, roule des yeux, qui est un essai, qui a fait la fusion UNEDIC, voilà, même dans cette structure, m'a dit, mais on a des partenaires qui sont extrêmement sensibles au coût pour l'entreprise, c'est-à-dire que des partenaires sociaux qui pensent au budget de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc on sent qu'il y a aussi une évolution des partenaires sociaux qui aujourd'hui, quand on parle de rémunération, bien sûr, ils vont défendre le salarié. Mais ils vont penser aussi à la masse salariale, au coût pour l'entreprise. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et c'est quelqu'un qui est dans le métier déjà depuis pas mal de temps, qui vient d'autres entreprises, mais je n'ai jamais vu ça ailleurs. Donc aujourd'hui, on n'a plus de mal à parler de gestion, de masse salariale, puisqu'on a aussi une vision qu'ils sont capables de partager. Alors avec une autre philosophie, certes, mais quand même capable de partager ce genre de vision. Alors, je vous disais tout à l'heure, la difficulté, elle vient d'où? Elle vient pratiquement de ce que nous disent certains RH ou certains compagnons, dans certains cas de la direction générale. Alors, pourquoi? Soit parce que la direction générale, comme le disait Nathalie, n'a peut-être pas forcément la même vision, ne se rend pas compte que les partenaires sociaux avancent sur le sujet et peuvent avoir une vision monolithique, donc il y a la difficulté de les faire entrer dans la boucle, voire surtout de communiquer sur le sujet. On sent qu'il peut y avoir une certaine tiédeur, alors qu'on comprend, hein, c'est autant on va avoir le RH, le compagnon Ben, qui va y aller, comme dit Nathalie, qui va prendre le pouvoir, qui ne va pas avoir peur de s'exprimer, les partenaires sociaux non plus, mais on peut sentir une direction générale un peu tiède, ou en tout cas qui prend du recul, ou qui peut être complètement en déphasage par rapport au discours véhiculé par les RH, voire qu'on demande de véhiculer au RH. Je fais un aparté, on a dû intervenir récemment pour une grosse société de conseil, dont je ne vous dirai pas le nom, mais une grosse SS2I, on va le dire comme ça, dont les salaires avaient été complètement gelés à la fois par la DRH à la demande de la direction générale, et c'est le moment où, alors que la société est plutôt en phase, on va dire, de vache maigre, il y a une augmentation du fixe du salaire du président. Et avec le DRH, on dit, attendez, c'est quand même pas, enfin, vous avez le droit de faire, c'est vous qui décidez avec votre conseil la fixation, mais quelque part, en termes psychologiques, en termes de communication, en termes de stratégie, c'est pas très judicieux. Ça va se savoir, bien sûr, votre salaire est communiqué, tout le monde le sait. La première chose que vont faire les salariés, c'est regarder si vous êtes octroyé une augmentation ou pas. C'était une petite augmentation, c'était 30% quand même, hein, sur un fixe qui était déjà quand même cohérent, enfin, conséquent. Bon, on n'a rien eu à dire, on va dire, même si il y avait à la fois le consultant extérieur qui était là pour donner un avis en disant, mais vous êtes en train de planter votre politique de rémunération et Votre DRH et votre compagne dernière, enfin, ils ne peuvent pas, enfin, vous leur demandez après de communiquer auprès des salariés, mais ça va être tout de suite la levée de bouclier. On a senti que de la part du dirigeant, il n'y avait pas une adéquation, ou en tout cas une volonté de remettre en cause le sujet. Bon, alors, on le disait au moins décalé de quelques mois, ça sera quand même plus judicieux, vous allez préserver la paix sociale et autres. Donc, on a obtenu, on va dire, un moratoire, donc on a décalé de quelques mois, le temps au moins que le discours se passe. Mais réellement, et là c'est un cas réel et récent, on a bien senti que le frein ne venait pas ni des partenaires sociaux, ni des compagnies, ni de la RH, ni des managers, mais plutôt d'un dirigeant qui avait une vue différente, même s'il avait une vision d'entreprise qui était tout à fait judicieuse en termes de rémunération. Ce qui ressort aussi, c'est que il y a aujourd'hui des véritables contraintes budgétaires. Alors, je vais pas, même si c'était un peu avant que la crise financière arrive, c'était juste avant, on sent quand même aujourd'hui sur le sujet, autant les entreprises sont prêtes à mettre une vraie masse salariale, à payer éventuellement un responsable rémunération sur le sujet, à demander au DRH de travailler sur le sujet. En revanche, en termes de budget, c'est plutôt parti congru. C'est-à-dire le budget de fonctionnement pour le responsable REM ou le responsable RH, il est relativement maigre. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un compagne Ben, je lui ai demandé quel est votre budget, il m'a dit zéro. Ben, on a déjà créé mon poste, on va pas en plus ouvrir un budget, on m'a dit ben, vous ouvrez le poste, donc vous êtes là pour faire. En gros, vous vous débrouillez. Donc vous n'avez pas un euro pour une enquête de rémunération, vous ne pourrez pas faire travailler qui que ce soit, vous vous débrouillez avec Excel, certainement pas des outils qui existent sur le marché. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a déjà ouvert un budget avec votre salaire, c'est le début, allez-y. Sur d'autres fonctions, ça n'existerait pas.
Non, mais c'est juste, tout le problème, c'est parce qu'on est perçu comme des centres de coûts. C'est toute la difficulté. Et en fait, tant qu'on n'arrivera pas à se vendre, à vendre en fait la valeur ajoutée, justement, de compétences Campenben en interne, on aura toutes les difficultés du monde à justifier le budget complémentaire. C'est pas loin, mais en fait, c'est l'homologue du contrôleur de gestion qu'on trouve dans les équipes de direction financière. On crée ce poste, bien souvent Compenben ou contrôle de gestion sociale, qui va être là pour fliquer les coûts, les justifier et puis les optimiser. C'est ça, en fait, hein. Mais derrière, c'est pas que rationaliser, c'est aussi proposer des solutions alternatives, créatives, qui puissent générer de la croissance, de la performance, etc.
Nathalie a raison. Alors, on voit aujourd'hui effectivement sur les postes dits de Compenben, quand je disais tout à l'heure avec l'enquête qu'on fait, on est en train de récupérer, là, on va sortir la troisième enquête. Donc, et on a un panel de 150 personnes, Compenben en différentes structures. On se rend compte aujourd'hui que la fonction d'abord évolue et qu'effectivement, il y a un point qui est mis très fortement sur tout le côté gestion. Et ça, c'est plutôt à la demande de la société. Et en revanche, ce qui est assez amusant, autant il y a 3 ans, on voyait des Compenben qui étaient rattachés à la DAF ou à la DRH, aujourd'hui, à 98%, pratiquement 100%, ils sont tous rattachés à la DRH. Donc ça, c'est un vrai changement. Nathalie me demandait avant, est-ce qu'il y a des financiers là-dedans? Je dis, il y en a un. Alors, il y en a un, mais justement, c'est un seul qui a eu un rôle de Compenben, mais qui, à la base, bon, alors, il était HEC, donc c'est normal. À la base, c'était un financier, enfin, je veux dire, c'était un véritable financier qui est arrivé après, qui a eu aussi sous son giron les RH, qui est allé vers ce travail des rémunérations, mais avant tout, il a une vision très, on va dire, contrôle de gestion. Ce que dit Nathalie est tout à fait juste. En revanche, on voit, et pas uniquement dans les sociétés anglo-saxonnes, mais d'autres sociétés, qui peuvent être d'ailleurs des petites structures où le côté, une fois que les Compenben ont mis en place ce côté contrôle, ce côté gestion des coûts, ils prennent un peu plus de recul par rapport au côté uniquement chiffres, en ayant une vision, une vraie politique. Et là, ils arrivent vraiment sur le côté ressources humaines. D'ailleurs,
En fait,
de
en gros.
mémoire, Eric Alves, chez Sigor, disait la même chose. Je suis arrivé, je venais d'une autre entreprise où j'avais fait ça, il avait été chez Disney et autres. Dans cette entreprise, j'ai commencé déjà par faire un audit, par chiffrer, Et après, en fonction de cet audit, j'ai proposé des solutions.
Exactement ça. En gros, en fait, on va positionner quelqu'un sur un poste comme ça. Il va se palucher les bulletins de salaire pour faire, par exemple, l'optimisation des charges sociales. C'est un truc très tendance en ce moment où on va travailler sur toutes les charges. C'est bête, hein, mais sur les charges patronales, il y a moyen de générer un petit peu de backlog, on va dire. Et cette somme-là, ce petit crédit, eh ben, on va lui dire, OK, ben, ce que tu as récupéré, on va l'utiliser autrement. On va mettre, par exemple, en place un abondement supérieur sur le PE. On va, voilà, c'est en ça qu'on a une valeur ajoutée dans les comités de direction quand on arrive et qu'on là, on se positionne plus en centre de coût, en fait. Mais ça, c'est toute une gymnastique. C'est pas évident, hein, parce que bon, il faut les trouver quand même, les points.